Voilà, désolé pour ce petit problème technique, mais du coup maintenant nous allons procéder à la première pause musicale et nous allons écouter Butter des BTS.
Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Like summer, yeah, I'm making you sweat like that.
Break it down.
Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so
ooh, do the boogie.
A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause God can see it.
Side step right left to my beat. Get it. Remind me you got it bad.
Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I
gotcha.
Making you fall like that.
Break it down.
Ooh, when I look in the mirror, I'm into hard into two. I got the superstar glow, so ooh,
do the boogie line.
Side step right left to my beat.
Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the plans get moving when the bass low. Got an army right behind us when we say so. Let's go.
Voilà, maintenant, fin de cette petite pause musicale. Nous allons passer à un autre grand thème pour parler de la culture asiatique. Et tout de suite, c'est les arts martiaux. Les arts martiaux, qu'est-ce que réellement les arts martiaux? Comment sont-ils apparus? Quelles sont les valeurs des arts martiaux? Voilà quelques sujets que nous allons aborder dès maintenant. Les arts martiaux sont des sports de combat asiatiques. Ceux-ci sont fondés sur un code moral strict. Leur but premier est d'enseigner des techniques de combat, la connaissance de son corps et la maîtrise de soi. Pour mieux comprendre la suite, revenons un instant sur l'étymologie du terme art martial. Le mot art met en avant l'habileté et l'esthétique. Le mot martial, lui, est relatif à la guerre et au combat. Cela montre avant tout que les arts martiaux ne sont pas que de la violence, mais aussi un art. Donc cela doit rester beau à regarder, grâce à la souplesse et aux différentes techniques. C'est pour cela que les arts martiaux sont très prisés dans le milieu du cinéma. On les retrouve donc dans beaucoup de films, tels que Big Boss et Opération Dragon. Dans ces films, nous pouvons observer d'impressionnantes figures de kung-fu. L'origine des arts martiaux remonterait à plus de 2 ou 3 000 ans avant notre ère. Le premier art martial est apparu au sud-est de l'Inde, dans la province de Kerala. Les arts martiaux viendraient d'un moine indien, Bodhidharma. Il aurait enseigné un système de défense aux moines de Shaolin. Les moines Shaolin, eux, auraient créé un art martial appelé kung-fu. Des formes de kung-fu auraient été transmises au Japon, ainsi le jujitsu serait né. Cependant, toute cette histoire ne peut être vérifiée. Ce dont on peut être sûr, c'est que des techniques de combat ont été enseignées et développées par des forces militaires asiatiques, tirant leur origine de l'entraînement à main nue des samouraïs. Le kung-fu a bien été développé par des moines Shaolin, c'est le premier art martial. Savez-vous qu'il existe un nombre incalculable d'arts martiaux? Vous connaissez très certainement les plus connus comme le judo, le karaté, le kung-fu ou encore le jujitsu, mais il en existe plein d'autres tels que l'aïkido, le kendo, le kyudo et encore plein d'autres, dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Pourtant, ceux-ci sont très intéressants et ont des valeurs importantes. Ils sont aussi très connus en Asie, et plus particulièrement en Asie de l'Est. C'est là qu'a pris naissance une grande partie des arts martiaux. Les arts martiaux sont-ils répandus en Belgique? Voici une question à laquelle nous allons répondre maintenant. En effet, ceux-ci le sont assez, même si peu de personnes les pratiquent réellement. Tout le monde sait ce que c'est et les principes qu'ils abordent, dans la généralité. Nous avons réalisé un micro-trottoir dans la ville de Liège afin de savoir ce que les gens en pensaient. Voici donc quelques réponses que nous avons récoltées. Du coup, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez des arts martiaux?
Ah, je trouve ça très chouette, les arts martiaux. J'ai fait un peu de judo quand j'étais jeune. Et je trouve que pour les jeunes filles surtout, c'est bien savoir se défendre en cas d'agression. Donc j'ai 4 filles et moi, je leur fais faire un stage d'autodéfense. Un petit stage, mais bon, ça peut toujours servir. Donc les arts martiaux, moi, je suis pour.
Je pense que ça change un peu des sports traditionnels et que c'est vraiment propre à la culture asiatique. Donc pourquoi pas?
Je pense que c'est un système de liberté, d'autonomie et de construction de soi-même. C'est un dépassement aussi de soi-même. Et voilà, je ne connais pas plus que ça.
Mais je pense que ça peut être une bonne chose pour le sport, etc., pour se défouler, mais aussi pour la vie de tous les jours. Peut-être se défendre ou autre, mais je pense que c'est chouette. C'est une bonne chose.
C'est un peu comme une sorte de yoga aussi, où on reprend possession de son corps et
on
se sent bien, oui.
Moi, personnellement, ça m'a permis à me canaliser niveau caractère et endurci, etc. Donc voilà, j'ai fait du jujitsu, donc voilà.
Alors pour moi, les arts martiaux, ça reste un art avant toute chose. Et ça reste aussi pour pouvoir se défendre. Donc c'est pas pour pouvoir attaquer, mais se défendre. Mais avant toute chose, ça reste un art qui est beau à voir, quel que soit l'art martial ou l'art martiaux que vous pratiquez. Il y a des codes, il y a des règles et il y a une religion derrière, donc ça reste vraiment de l'art. Voilà. Donc moi, je pense que c'est bien qu'à tout âge, on puisse se cultiver sur tous les arts martiaux qu'on a ici en Europe et apprendre de leurs coutumes.
Comme vous avez pu l'entendre, les personnes interrogées ont à peu près toutes le même avis sur ce sport. Les arts martiaux, selon elles, seraient des sports de défense et non de combat. Elles permettraient de mieux gérer son énergie et son corps et donc de se canaliser. Et elles ont totalement raison. L'image des arts martiaux renvoie donc une assez bonne image d'elle-même. Mais comment ces sports sont-ils arrivés en Occident? Eh bien, c'est à la fin du 19e siècle que Edward White va tenter d'introduire les arts martiaux japonais en Europe. Il va ouvrir la première école martiale à Londres d'inspiration orientale, le Baritsu Club. Celle-ci va faire fureur à Londres et c'est là que les arts martiaux ont commencé à se répandre en Occident. Maintenant, on va se demander... Dans la plupart des arts martiaux... Maintenant, on va se demander pourquoi ceux-ci sont-ils aussi répandus en Asie et non en Europe. Car c'est vrai que les arts martiaux en Asie font quasiment partie du quotidien, tandis qu'en Europe, cela est un sport comme un autre. Cela est dû à l'aspect cérébral qu'ont les arts martiaux. En effet, l'Asie est un pays très influencé par le courant religieux et philosophique. Ceci est causé par le large choix de religions en Asie, telles que les plus connues, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme. Au début et à la fin de chaque cours d'arts martiaux ou d'un combat se fait un salut, qui se nomme le Ritsurei. Le salut est un rituel très important. Il s'agit d'une marque de respect pour la personne qui se trouve en face de soi, mais aussi pour le maître. Cela aide à se conditionner mentalement à s'entraîner et à quitter l'entraînement. Voilà encore un exemple de la notion de valeur dans les arts martiaux. Comment se pratiquent réellement les arts martiaux? Il faut savoir que les arts martiaux sont surtout basés sur le respect et le dépassement de soi. Dans certains arts martiaux, il y a plusieurs grades qui se différencient grâce aux couleurs de la ceinture ou des dan atteints. Par exemple, dans l'aïkido, il y a la ceinture blanche, la jaune, l'orange, la verte, la bleue, la marron, puis les noirs, et seulement après vient les dan. Pour les atteindre, il faut maîtriser une série de techniques et de combats, plus faciles au début et qui se compliquent à la fin. Les arts martiaux sont donc ouverts à tous les âges. La personne qui peut apprendre cela se nomme Seisei, maître en français. Il est donc l'aîné et est voué à transmettre son savoir. Dans la plupart des arts martiaux, la tenue se compose d'un kimono qui est accompagné d'une ceinture, mais pour certains autres arts martiaux, comme la boxe thaï, le kimono ne sera pas de rigueur. Un simple short fera l'affaire. Il n'y a pas non plus de ceinture ou de dan, les compétitions se font donc en fonction du poids. Les arts martiaux se pratiquent principalement sur des tatamis, des espèces de tapis. Ceux-ci se trouvent dans des dojos, lieux où on s'entraîne. Enfin bref, nous voilà déjà à la fin de cette chronique, donc résumons un peu ce qui a été dit. Les arts martiaux sont pratiqués dans un but d'autodéfense et non réellement d'attaque, ils ont des valeurs morales et philosophiques, ils sont en pleine croissance en Europe et il en existe un nombre incalculable. Voilà maintenant, vous en savez plus sur les arts martiaux. Pour clôturer ce sujet, nous avons réalisé une interview avec Christophe Gester, professeur d'arts martiaux. Tout de suite, cette interview. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer une interview en compagnie de Christophe Gester. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Donc, je m'appelle, comme tu l'as dit, Christophe Gester. Je suis instituteur primaire dans la vraie vie. J'ai 52 ans et je pratique les arts martiaux.
Quels arts martiaux pratiquez-vous principalement ?
Alors, principalement, je pratique deux arts martiaux différents. Je pratique une école, on va dire, de sabre, qui s'appelle le Tenshin Shoden Katori Shintoryu. Donc, c'est une ancienne école traditionnelle qui date du 15e siècle. Et je pratique style Aikido.
D'accord, merci. Lequel est votre préféré et pourquoi ?
Alors, lequel est mon préféré ? Ça, c'est difficile de répondre. Les deux m'attirent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les pratique. Et pourquoi bon, ça, c'est difficile à dire, je ne sais pas. C'est comme, choisir, c'est comme faire de la musique. Il y a des instruments de musique qui vous plaisent, d'autres moins. Et bien, ceux-là me correspondent plus ou correspondent plus à ma personnalité.
D'accord. Sauriez-vous nous dire depuis combien de temps vous en pratiquez ?
Alors, depuis 30 ans. Ça va être ma 30e année, oui.
D'accord. Et pourquoi vous avez commencé au début les arts martiaux ?
Oula, alors j'ai commencé quand j'étais jeune, donc le judo comme tout le monde, puis j'ai arrêté à l'adolescence. Et puis ma génération, c'est la génération Bruce Lee. Donc en regardant les films de Bruce Lee, j'étais attiré notamment par tout ce qui était la culture asiatique et puis les arts martiaux. On a tous envie de ressembler à un héros ou à quelque chose comme ça. Donc on a, voilà, je me suis dirigé vers les arts martiaux.
Oui, évidemment. Et est-ce que les arts martiaux, pour vous, ont chacun une particularité bien à eux ?
Alors tout à l'heure, je prenais l'exemple de la musique. Oui, pour moi, chaque art martial a sa particularité. Et même donc si je prends l'exemple, je reviens à l'exemple de la musique. Donc tu vas apprendre à jouer de la musique, tu vas d'abord choisir un instrument de musique, donc tu veux jouer de la guitare, et puis après tu peux jouer de la guitare classique, tu peux jouer de la guitare d'accompagnement, tu peux jouer de la guitare électrique, tu peux jouer de la basse, tu peux jouer de la guitare manouche. Donc oui, chaque art martial a sa particularité, notamment le sabre, c'est facile. L'aïkido va plus jouer sur les techniques où on va faire des clés sur les articulations. Le karaté, il a plus la particularité de travailler les frappes. Le judo, plus les projections. Pardon. Donc voilà, chaque art martial a sa spécificité.
Ok, et, quel a été votre parcours pour devenir sensei ou maître ?
Alors, je suis pas maître, hein. Ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Sensei, alors ça c'est un peu particulier peut-être pour mon cas, parce que je suis des professeurs qui vivent à l'étranger. C'est un choix personnel, donc hein, comme de suivre des gens qui me plaisaient. Il fallait que j'aie un rapport avec ces personnes-là un peu particulier. Donc j'ai un professeur qui vit en Australie et un autre qui vit à Milan. Si je voulais progresser et si je voulais pratiquer moi-même l'art martial, parce que je l'ai rencontré et je revenais en Belgique, j'avais pas l'opportunité de pratiquer. Hein, donc je pratiquais à l'étranger, mais quand je revenais, je restais un peu seul. Donc j'ai demandé l'autorisation à mes professeurs si je pouvais ouvrir un dojo. Et après quelques temps, oui, ils me l'ont donné, cette autorisation. Et voilà, donc on a créé ce dojo. Et puis on a grandi ensemble avec les premiers adhérents.
D'accord. Et donc, quel est votre grade dans l'aïkido et les maîtrises des sabres ?
Alors, en aïkido, je suis 3e dan. Et en Katori Shintoryu, je suis Mokuroku Shuden. Voilà.
D'accord, et sauriez-vous un peu expliquer à quoi ça correspond, plus ou moins ?
Oh, à quoi ça correspond ? Quand on pratique les arts martiaux, la première chose à laquelle on pense, c'est de devenir ceinture noire. Ça, c'est, le ceinture noire, c'est le premier dan, c'est le premier stade. Ça signifie que on n'a pas passé le stade de débutant, mais qu'on débute le vrai apprentissage, si tu veux. Je vais toujours revenir sur le même exemple, puisqu'on parle j'ai parlé de musique tout à l'heure. Quand tu vas apprendre à jouer de la musique, tu vas faire du solfège, puis tu vas jouer des morceaux qui sont déjà composés par d'autres personnes, et puis tu vas, au fur et à mesure que tu joues de la musique, tu vas y insérer ta personnalité, tes émotions, etc. C'est pareil avec les arts martiaux. Donc à partir de la ceinture noire, tu vas y introduire ce que tu es. C'est pour ça pour moi que c'est un art. C'est-à-dire que j'ai deux professeurs et donc je ne serai jamais comme eux. Je n'ai pas la même éducation qu'eux, je n'ai pas le même physique qu'eux, je n'ai pas le même background. Donc ils vont me donner tout ce qu'ils connaissent et en fonction de ça, moi je vais le faire en fonction de ma personnalité.
D'accord, merci. Et est-ce que les arts martiaux vous ont aidé à avoir une meilleure maîtrise de vous-même ?
Ah, ça je ne le saurais jamais parce que je ne sais pas comment je serais si je n'avais pas pratiqué. Mais je pense que oui. En tout cas, une meilleure connaissance de moi-même, certainement. Oui, je pense, oui.
D'accord, merci. Voilà, nous arrivons déjà à la dernière question. Donc, est-ce que pour vous, les arts martiaux se répandent-ils en Belgique pour le moment ?
Ah, ça, c'est une question épineuse. Je pense qu'il y a des modes. Il y a un moment, il y a eu le tai chi qui s'est développé, puis maintenant on parle beaucoup de Krav Maga. Quand ça a été la sortie des films Rocky, il y a eu beaucoup de boxe qui est venue. Donc c'est difficile. Et je pense que le Covid n'a pas aidé, parce que je pense pour certaines fédérations, j'en parle avec certains présidents de fédérations d'arts martiaux différents, avant le Covid et après le Covid, il y a beaucoup de membres qui se sont arrêtés et on est en train de reconstruire ça maintenant.
Très bien, merci beaucoup pour vos réponses et...
Je vous en prie. Merci.
Bon après-midi.
Merci de m'avoir invité.
Oui, pas de souci. À l'instant, un sujet que tout le monde aime, la nourriture. Aurélie va nous éclairer sur la nourriture asiatique.
Merci Zoé. La nourriture asiatique est incroyablement diversifiée, reflétant la richesse des cultures et des traditions culinaires. Cette région, voici quelques spécificités de la nourriture asiatique. Numéro 1, les variétés des saveurs et des textures. La cuisine asiatique est connue pour sa combinaison unique de saveurs, allant de sucré au salé en passant par l'acide et l'amer, et l'umami. Les plats asiatiques intègrent souvent une grande variété d'ingrédients frais et d'épices, créant des saveurs complexes et d'équilibre. De plus, la cuisine asiatique offre une large gamme de textures, des croquants au moelleux en passant par des textures gélatineuses. En numéro 2, nous avons les utilisations d'ingrédients frais et locaux. La plupart des cuisines asiatiques mettent l'accent sur l'utilisation d'ingrédients frais et de saison. Souvent achetés sur les marchés locaux, les légumes, les fruits et les herbes aromatiques et les épices jouent un rôle central dans de nombreux plats asiatiques, ce qui le rend souvent très coloré et nutritif. Diversité des plats et des techniques de cuisson. Chaque pays d'Asie a ses propres plats emblématiques et ses propres techniques de cuisson. Par exemple, la cuisine chinoise est célèbre pour ses plats sautés frits et cuits à la vapeur, tandis que la cuisine japonaise est connue pour ses sushis, sashimi et tempuras. De même, la cuisine thaïlandaise est réputée pour ses utilisations audacieuses de piments, d'herbes aromatiques et de lait de coco. En numéro 4, nous avons équilibre et harmonie. La cuisine asiatique met souvent l'accent sur l'équilibre des saveurs, des textures et des couleurs. Dans chaque plat, par exemple, la cuisine japonaise accorde une grande importance à la présentation esthétique des plats, tandis que la cuisine chinoise met en valeur l'harmonie des saveurs entre les différents plats d'un repas. En numéro 5, nous avons l'influence de la médecine traditionnelle. Certains aspects de la cuisine asiatique sont souvent influencés par la médecine traditionnelle comme la cuisine chinoise qui valorise les aliments en fonction de leurs priorités énergétiques et médicales. Par exemple, certains plats sont considérés comme rafraîchissants et réchauffants selon les saisons et les besoins individuels. En résumé, la nourriture asiatique est caractérisée par sa diversité, son utilisation d'ingrédients frais, ses saveurs d'équilibre, ses techniques de cuisson variées et son lien avec la culture et la tradition. C'est une cuisine qui ravit les papilles et offre une expérience culinaire riche et gratifiante.
Merci de nous avoir fait découvrir les différentes spécialités asiatiques, Aurélie. Nous arrivons déjà à notre deuxième pause musicale. Tout de suite, Dangerously de Beats Aeon et Jay Chung.
Myself first, cause I
Passons à la suite. Les thèmes qui vont suivre sont les mangas et leur opening. Mais avant ça, une petite interview en compagnie de Nicolas Missoli. Maintenant, place à cette interview.
Pour parler des mangas, aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Missoli.
Bonjour.
Peux-tu te présenter, s'il vous plaît ?
Tu l'as un peu déjà fait. Je m'appelle Nicolas Missoli. Je suis à l'Académie des Beaux-Arts en bande dessinée. J'ai 25 ans.
Pourquoi tu as choisi les Beaux-Arts ?
Les Beaux-Arts c'est plutôt parce que on était beaucoup plus libre. On développe tout à fait notre style là-bas. Donc c'était plutôt ce que je voulais faire parce que j'ai un style un peu manga et c'est pas du tout, on va dire, l'optique d'autres écoles de développer sur le manga. On essaye toujours d'avoir du style un peu franco-belge dans les écoles d'ici.
Pourquoi t'as choisi le manga et pas la BD du coup ?
J'ai toujours une grande admiration pour tout ce qui était les mangaka au Japon et tout ça. Surtout parce qu'ils travaillent vraiment extrêmement dur et ils mettent des années à développer leur style. Et j'ai plus découvert tout ce qui était travail de bande dessinée au travers du manga qu'avec tout ce qui était BD franco-belge. J'ai bien sûr lu Titeuf, aussi tout ce qui était Tintin et tout ça, les trucs un peu classiques. Mais j'ai plus, on va dire, développé mon regard avec le manga.
Qu'est-ce qui t'a lancé dans cette forme d'art ?
Cette forme d'art, en fait, j'ai toujours aimé dessiner. Je gribouillais, comme un peu tout le monde, dans mes carnets à l'école. C'était pas forcément super non plus pour les professeurs parce que des fois il y avait carrément beaucoup plus de dessins que d'écriture ou de calcul. C'était un peu compliqué pour eux quand ils regardaient mes notes. Pareil aussi dans mon journal de classe, je dessinais toujours, même à la maison je dessinais, j'avais des fardes et des fardes de dessins qui finissaient dans la poubelle en fin de compte.
À quel âge as-tu commencé le dessin du coup ?
Très très tôt en vrai. Dès que j'ai pu avoir un crayon dans la main, je commençais à dessiner, à gribouiller, en fait.
Est-ce que tu peux nous expliquer la particularité du manga ?
En vrai, c'est une question un peu complexe. Il n'y a pas qu'une seule réponse juste, on va dire, si on peut dire ce terme-là. Il y a tellement de particularités pour moi. Déjà, c'est ultra libre au niveau des cases. Ça nous permet énormément de dynamisme. Le sens de lecture, c'est vrai qu'il faut s'y faire. C'est un des points négatifs pour tout ce qui est franco-belge, tout ce qui est européen ou même américain, parce que normalement c'est pas le même sens de lecture. Mais je dirais aussi au niveau du développement du style, on peut quand même se permettre aussi énormément de trucs, même si c'est extrêmement codifié, on va pas se le cacher. Énormément de variations de style aussi.
Quelles sont tes sources d'inspiration pour dessiner ?
Y a énormément, parce que j'ai une part quand même du manga, mais et aussi une énorme dans le jeu vidéo, en fait. Il y a tout ce qui est JRPG, comme tout ce qui est Chrono Trigger, ou Final Fantasy, bien sûr, Dragon Quest, ou d'autres trucs comme Etrian Odyssey, des trucs comme ça.
Est-ce que tu pourrais nous répondre combien de temps est-ce que ça prend d'écrire un manga ?
Alors, ça dépend. Ça dépend parce que c'est énormément de travail, d'écriture, de recherche, de regard, aussi le chara-design, surtout quand on fait tout seul. Moi, je fais tout seul quand je fais mes mangas. Y a extrêmement, c'est énormément de temps. Je pourrais pas forcément mettre un chiffre exact, mais ouais, ça prend quand même énormément de temps pour faire rien qu'un chapitre.
C'est quoi le chara-design ?
Le chara-design, en gros, c'est le travail sur un personnage. Les poses, ses attitudes, les vêtements qu'il a, son style vestimentaire, quoi, du coup. Les yeux, les cheveux, ça peut aller partout. Sa forme de corps.
As-tu déjà essayé de créer un manga que tu as essayé de publier ?
J'ai pas essayé de publier parce que je fais tout ce qui est impression, c'est moi qui le fais. Je fais aussi la maquette tout seul. C'est toujours moi qui imprime, donc j'ai jamais fait de travail sérialisé.
Aimerais-tu plus tard envisager de vivre de tes dessins?
Alors, ce serait vraiment extrêmement bien. J'aimerais énormément pouvoir vivre de ce que je fais. C'est sûr que ça sera pas du jour au lendemain, parce qu'il faut quand même arriver à captiver un public ou un truc comme ça. Non, c'est... Pour l'instant, je sais très bien, je suis réaliste. Je vais dire que déjà, un truc pour tous les auteurs, c'est qu'il faut énormément travailler pour arriver à vivre de son œuvre, de son art. Donc oui, ce serait vraiment extrêmement bien, mais je sais très bien que ça reste quand même difficile.
Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci Nicolas Micelli.
De rien. Merci à vous.
Voilà pour l'interview. Maintenant, c'est au tour de Amy de nous en dire plus sur les mangas.
Connaissez-vous les mangas? C'est la question qu'on a posée aux habitants de Liège.
Alors, première question. Est-ce que vous connaissez les mangas ou les animés?
Oui, je vois.
Est-ce que vous pouvez me citer un de vos animés d'enfance?
Alors, la différence entre animé et manga est un peu floue. Mais j'ai regardé Dragon Ball Z... Et comment il s'appelle celui qui cherchait le pirate là? Voilà.
One Piece,
voilà. Ouais. Voilà.
Bonjour, oui, je connais parce que c'est de plus en plus courant maintenant à la télévision, au niveau de la librairie aussi, mais personnellement, je ne les connais pas moi-même.
Oui, bien sûr, j'en regarde régulièrement. Un de mes dessins animés d'enfance, je dirais, j'ai grandi avec Pokémon. Autre que ça, il y avait aussi Assassination Classroom niveau animé, ou malheureusement un peu trop jeune, L'Attaque des Titans. Mais du coup, ouais, les animés, c'est quelque chose que je regarde depuis que je suis très jeune et j'aime beaucoup ça.
Oui, bien sûr. Ouais.
Est-ce que vous pouvez me citer un de vos animés préférés ou de votre enfance?
Je dirais que c'est L'Attaque des Titans.
Des dessins animés, oui. Les mangas, de nom plus qu'autre chose. J'en ai lu un manga sur le vin.
Je vois que quelques personnes connaissent les mangas et les animés. Mais connaissez-vous l'origine du manga? C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Au 8e siècle, lors de la période Nara, pour vous situer, c'est entre 710 et 794, les Japonais associent du texte aux images. Ces images sont dessinées sur de longs parchemins nommés emakimono. Il en existe un qui porte le titre de Shōjō Shinjika, qui représente des animaux avec des postures humaines. Là, nous sommes déjà au premier manga du monde. Nous arrivons à l'époque Edo, que dis-je, la période la plus importante du Japon, qui a duré plus de 200 ans, entre 1603 et 1868. Pendant cette période, le Japon décide de s'isoler par peur des maladies, des occidentaux et de la nouveauté. C'est durant cette période que le terme manga fait son apparition. Il pourrait se traduire par « esquisse rapide ». Il va se populariser grâce à une esquisse, le Hokusai manga, créé par le peintre Katsushika Hokusai. Il va faire connaissance d'un peintre qui fréquente les Européens du port de Nagasaki. Le peintre étranger a une notion que les Japonais n'ont pas, la perspective. Hokusai va publier 12 volumes de son manga. Ce manga va marquer le monde grâce à son esthétisme unique. Nous sommes en 1854, dans le pays du soleil levant, et on est presque à la fin de l'époque Edo. Le Japon décide de se rouvrir au monde. Le pays va vivre une véritable révolution industrielle, et pour chercher la nouveauté, ils partent en Europe. C'est ici que se fait découvrir l'œuvre d'Hokusai. L'Occident tombe amoureux des travaux d'Hokusai après avoir trouvé l'œuvre « La grande vague de Kanazawa ». De Kanagawa, pardon. Grâce à cela, le terme manga se fait connaître en Occident en même temps que les Asiates et que l'art japonais. C'est en Suisse que le Japon va trouver de l'inspiration pour la bande dessinée et la caricature. Des Occidentaux vont s'installer au Japon, dont le dessinateur anglais Charles Wickman. Il va apporter les journaux satiriques au Japon, type de journal anglais. Nous sommes en 1862 et Charles lance un journal de bande dessinée au Japon, The Japan Punch. Ce journal cartonne et il influence beaucoup d'autres journaux de ce type. Charles va former des Japonais à l'art de la caricature et de la BD. À cette époque, les BD sont muettes. S'il y avait du texte, c'était pour remettre un contexte. L'art occidental va évoluer et va convaincre de plus en plus d'adeptes. En 1880, un certain Ippyo Imaizuki part vers San Francisco pour étudier l'art de la BD. 10 ans plus tard, il repart pour le Japon et est employé par son oncle journaliste. Le journal se nomme Shinchi Shinpo, littéralement traduit par « journal de l'actualité ». Dans ce journal, il publie des pantomimes cartoon, images sans dialogue. Les BD de Ippyo Imaizuki est la première à être appelée manga dans le pays du soleil levant. Mais pour que l'on reconnaisse le fait que ce sont des vraies cases de manga, il faut attendre l'invention d'une chose bien précise, le phonographe. Comme toute grande invention, les gens ne parlaient que de cela. C'était une vraie expérience, à l'époque, d'écouter la voix de quelqu'un qui n'était pas dans la pièce. C'est plus fort qu'eux, les artistes veulent ajouter du son à leur dessin. Et pour qu'il y ait du son, ils vont créer des bulles. Ça apparaît dans les journaux américains début 1900. Bien sûr, le Japon n'échappe pas à cette nouvelle mode. Ça arrive jusqu'aux oreilles du journal Shinchi Shinpo, là où notre très cher Ippyo cède sa place à son apprenti Rakuten Kitazawa. En 1902, il va dessiner une suite de dessins et il va le nommer Shinchi Manga. Mais pour Rakuten, le manga est un art silencieux. Il lance son premier journal, le Tokyo Punk, dans lequel il dessine la BD américaine mais aussi japonaise.
Est-ce le début de la bande dessinée moderne ?
Alors, pour que la première BD moderne arrive au Japon, il faut attendre 1923, la BD The Bringing Up Father, connue en Belgique sous le nom de Famille Illico. Au Japon, cette BD devient un phénomène. Malheureusement, le niveau d'anglais au Japon est toujours maintenant et lamentable. Il faut donc traduire ce texte. On a, en 1923, une adaptation d'un comics américain. On peut se dire qu'ici, nous avons le plus vieux manga de l'histoire. Pas vraiment, il manque quelque chose. Et c'est ici que l'on voit la première maison d'édition ouvrir, la Shueisha, qui ouvre ses portes en 1925. Mais à l'époque, c'était une vraie galère, car les traducteurs se font rares et ce n'est pas si facile de traduire des vannes en japonais. Car oui, les comics américains sont basés sur l'humour. La maison d'édition se dit qu'elle va créer son manga elle-même. Elle fait appel à Yutaka Asso. Il publie son manga du nom de Nankun Nantosan, excusez-moi ma prononciation, et en anglais va se nommer Easy Going Daddy. Cette œuvre est le premier manga moderne créé. Voilà, maintenant vous savez tout sur la création du manga.
Merci Amy pour ces précisions. Charlie, à toi l'honneur de nous parler des openings.
Pour cette prochaine chronique, on va partir à la découverte des openings de manga. Je me suis baladée dans le centre-ville de Liège. J'ai posé des questions à des passants pour savoir quels sont leurs animés préférés. Quel est votre animé préféré ?
Naruto.
Je suis pas très fan de manga, mais j'en ai jamais lu en fait.
Non, pas du tout.
Oui, Jujutsu Kaisen, et j'aime bien aussi Wonder Egg Priority.
Ah oui, ça, j'en ai déjà regardé plusieurs. Bah, je sais pas si c'est vraiment... c'est Cyberpunk 2077 Edge Runner.
On écoute. Qu'est-ce qu'un opening ? Un opening, c'est une musique qui fait commencer un animé. Si vous voulez un exemple, je vous ai préparé mes 6 openings d'animé préférés. Je vous les raconte, je vous raconte le début. If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. それぞれ の答えにつかる。Pour ceux qui l'ont deviné, c'était l'opening de Mob Psycho 100, qui raconte l'histoire de Mob, un adolescent qui possède des pouvoirs psychiques. Et qui espère que son amoureuse tombera amoureux de lui. Voilà, maintenant on vous passe le deuxième opening. C'était Mashle. C'est l'histoire de Mash, un garçon qui vit dans un monde où la magie et la religion ont tous les droits. Lui qui n'a ni pouvoir, ni sentiment. Mais surtout, il ne possède aucun pouvoir. Il possède une force surhumaine. Un agent de police découvre qu'il ne peut guère utiliser ses pouvoirs. Il, Il va l'inscrire dans une académie de magie pour qu'il devienne élu divin. Ce manga est dessiné par Hajime Komoto. Maintenant, nous allons vous présenter le troisième opening. C'est l'histoire de Jonathan Joestar qui va rencontrer son demi-frère Dio Brando. Un jour, Dio trouve un masque couvert de sang et se transforme en vampire. Il s'en sert pour tuer le père de Jonathan. Suite à ce drame, Jonathan, surnommé Jojo, va développer un pouvoir que seule la famille Joestar possède, les Stands. Il va s'en servir pour essayer de battre son demi-frère. Passons au quatrième opening. C'était Frieren. C'est l'histoire suit une elfe magicienne, Frieren, ancienne membre d'un groupe d'aventuriers qui a vaincu le roi des démons et restauré l'harmonie du monde, après une quête de 10 ans. Ce groupe complète l'elfe magicienne Frieren, le héros humain Himmel, le guerrier nain Aizen et le prêtre humain Aether. Maintenant, nous passons à l'avant-dernier opening. C'était l'opening de The Bucket List of the Dead. C'est l'histoire d'un jeune garçon venant de terminer ses études universitaires qui se lance dans la vie active au sein d'une grande entreprise. Il se rendra compte qu'il sera vite exploité en travaillant jour et nuit sans relâche. Il était empli de rêves et d'espoir, mais il déchanta très vite. Maintenant, passons au dernier opening. À vous d'écouter. Pour ceux qui l'ont deviné, c'était Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8 se déroule dans un Japon où les Kaiju, monstres géants, attaquent au quotidien la population. Kafka Ibino, un trentenaire désabusé qui rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces créatures, travaille à nettoyer les rues de leurs cadavres. Voilà, nous avons fini d'écouter des extraits d'opening. Merci de m'avoir écouté. Nous arrivons à la fin de l'émission sur l'Asie.
Pour clôturer tout ça, on va avoir une petite touche de fun avec un quiz présenté par Aurélie et moi et que Charlie, Cindy et Amy vont y participer.
Procédons maintenant à un petit quiz. Je préviens qu'il risque peut-être d'y avoir un spoil dans les questions suivantes. Question 1. Dans Demon Slayer, quels piliers sont présents pendant l'arc des araignées ?
Tomioka et un autre, mais je ne sais plus du tout. Je dirais Shoujo ou un truc comme ça.
Et c'est la bonne réponse.
Oui.
Oui.
Je suis pas sûre du tout.
Question 2. Dans Death Note, dans quel endroit Light trouve le premier Death Note ?
Dans son école, dans la cour de récré.
Oui, exactement.
Dans la question 3. Dans Naruto, quel est le livre qui a donné Naruto à Kakashi ?
C'est pas un livre avec des enfants qui jouent, enfin un livre.
Non,
orange.
C'est un livre avec de l'amour. C'est un livre de romance, il me semble.
Il nous faut le nom.
Ah, Fanny.
Cindy, tu l'as ? Toi qui as vu Naruto ?
Je me demande si c'est pas un livre un peu... Non, je sais pas. Genre,
en tout cas, c'est Jiraiya qui l'a écrit. C'est Jiraiya.
Oui, un peu pervers, en fait, c'est ce que je me disais. Mais si c'est Jiraiya, ça confirme, du coup. Mais je ne me rappelle pas le nom du livre.
Eh ben, le titre, c'était « La tactique du bafilage ».
Du bastifleur.
Ouais.
Question 4. Dans Tokyo Ghoul, pour quelle raison le personnage principal est-il devenu une goule ?
Parce qu'il s'est fait attaquer par une goule.
Et qu'il a été opéré, on lui a mis des organes d'une goule.
Oui, c'est Cindy qui a raison.
Ouais. Dans la question 5, dans Hunter x Hunter, quelle est l'arme de Pokuru ?
Un arc.
Bonne réponse.
Question 6. Dans Jojo Bizarre Adventure, comment se nomment les quatre fils de Dio ?
Oh !
Je ne saurais pas du tout vous dire personne.
Oula, Giorno.
Ouais.
Une Galo.
Oui.
Je pense qu'il n'y a que moi qui ai vu Jojo ici.
Oui.
C'est mon avis préféré, c'est la honte.
Il en reste deux.
Je ne sais plus. Je sais qu'il y a Giorno, Ungalo.
Les deux autres, c'était Riquiel et Donatello.
Ah oui, Donatello, purée. Donatello.
Dans la question 7, Dog Given, quel est le premier mot de la chanson Foyou no Anashi?
Mada.
Wow. C'était rapide.
Pardon.
Au moins, ça venait du cœur.
Ça venait du cœur, désolé.
Dans Oshinoko, qui est secrètement amoureuse d'Aqua?
Je peux donner la réponse?
Bah oui, vas-y.
Oh. Kana.
Oui, c'est ça.
Je sais plus.
Question 9. Dans One Punch Man, quel est le premier boss que Saitama a tué?
Vaccine Man, il me semble.
Oui, c'est ça.
Ouais, bien vu.
Question 10. Dans Akira, a une super moto rouge inoubliable. Dans Akira, qui a une super moto rouge inoubliable? Excusez-moi.
Kaneda?
Une bonne réponse.
Merci.
C'est déjà la fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu et que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à avoir réalisé cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Merci de nous avoir suivis et écoutés. C'était Asian Mind. Au revoir et bonne fin d'après-midi.
Merci.